Bienvenue dans le module 2 de cette initiation au code pour les vrais débutants. Dans ce module, on va apprendre à créer la version ultra basique de notre jeu, le nombre mystère. Alors, vous n'êtes plus vraiment des vrais débutants, puisque ça y est, vous avez écrit vos premières lignes de code. Vous avez déjà appris pas mal de notions de base. Vous savez ce qu'est une variable, vous savez ce qu'est un type de variable, vous avez utilisé Visual Studio, vous avez fait votre premier code conditionnel avec un if-then-else. Vous connaissez la notion de base de ce qu'est une classe, donc vraiment par contre les notions, la première notion, parce qu'une classe ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Malgré tout, ça vous suffit largement pour ce cours. Vous avez également appris ce qu'est une méthode, encore une fois la notion très simple de ce qu'est une méthode en passant des paramètres. Vous avez appris ce qu'était une application console et vous avez créé votre première application, tout ça dans le module 1. Alors, vous allez voir que tout ce que vous avez appris, vous allez pouvoir directement le remettre en œuvre dans notre petit jeu, le nombre mystère. Je vais vous faire la démonstration du jeu et vous allez voir, vous allez avoir une sensation de déjà-vu normalement. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à retourner dans le module 1. On va démarrer le jeu. Voilà, j'ai double-cliqué sur l'exécutable. Dans ce jeu, il faut tout simplement que l'on trouve un nombre entre 1 et 20 qui a été choisi au hasard par l'ordinateur. Alors, je choisis un nombre, hein, l'application me propose de deviner le nombre, donc je vais entrer 10. Il me dit que c'est moins que 10, donc je vais entrer 5. Il me dit que c'est plus, 8, plus, voilà, c'était 9. Donc une fois que j'ai trouvé le nombre mystère, il me l'annonce, j'ai trouvé. Et vous remarquez qu'à chaque fois, en fonction de la proposition que je fais, il me dit si c'est plus ou moins. Donc, vous devez deviner qu'il y aura un certain nombre de tests à mettre en place avec des if, else, comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'il y aura des console.writeline à mettre en œuvre avec des readline, etc. Finalement, vous allez voir que vous devez vous sentir déjà un petit peu plus à l'aise en voyant ce genre d'application. Vous devez vous dire, ah, il y a des choses vraiment que j'ai déjà vues. En gros, vous avez fait le plus dur. On va commencer tout de suite à avancer dans ce cours et à créer le nouveau projet dans Visual Studio. Vous avez plusieurs possibilités pour créer un nouveau projet. Soit vous le rajoutez dans la solution, comme ce que je vais faire. Vous pouvez télécharger la solution qui correspond, enfin le code source qui correspond à la fin du module 1. Il est en pièce jointe de ce cours. Ou vous pouvez également créer tout simplement un nouveau projet en faisant fichier nouveau projet. Moi, je vais le rajouter dans la solution existante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans l'explorateur de solutions. Je vais sélectionner la solution. Je fais un clic droit, ajouter, nouveau projet. Je vérifie bien que j'ai sélectionné Visual C Sharp, Windows, application console. Et je vais donner un nom à mon projet. Je vais l'appeler nombre mystère console, puisqu'on aura plusieurs versions de ce nombre mystère. Je clique sur OK. Voilà. Le nouveau projet a été créé et je vais retrouver le même genre de code que ce que j'ai vu tout à l'heure dans le projet Save My Name et dans le fichier programme.cs. Voilà, on se retrouve avec un main vide. Si je veux exécuter en fait ce programme, il faut que je commence par le sélectionner et le définir comme projet de démarrage pour que chaque fois que je clique sur démarrer ou chaque fois que je fais F5, ce soit bien ce projet qui soit exécuté. F5, et donc là, comme on l'a vu dans le module 1, si on n'écrit rien dans le main, bah, il ne se passe rien, hein, la fenêtre s'ouvre et se referme tout de suite. On va démarrer le code de notre petit jeu. Donc vous l'avez vu, le principe c'est une application qui choisit un nombre entre 1 et 20 et qui essaie de vous le faire deviner. Donc, la première chose à faire, c'est de générer ce nombre, de faire générer ce nombre par l'application. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver une fonctionnalité qui nous permet de générer un nombre aléatoire. Alors là, je vais aborder un sujet dont on ne parle pas tellement, mais qui est très 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 évident pour nous les développeurs. On y passe énormément de temps, c'est chercher l'information sur Internet. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les développeurs ne savent pas tout par cœur. Ils ne connaissent pas toutes les fonctionnalités du système. Ils ne connaissent pas tous les noms de toutes les classes par cœur, avec toutes les méthodes correspondantes, l'ordre des paramètres qu'on doit passer, etc. Donc, on passe beaucoup de temps, nous développeurs, à chercher l'information. Et ça fait partie de la formation aussi. de secours. Donc voilà, essayez de trouver sur Internet comment générer un nombre aléatoire en C#. La première chose que je vous demande, c'est de trouver le nom de la classe qui permet de faire ça. Je vous rappelle que chaque fois que vous avez un petit exercice à faire, il faudra mettre la vidéo sur pause et le signal pour ça, et aussi le signal pour vous réveiller si vous êtes endormi entre-temps, c'est... Quand vous entendez ce bruit, mettez la vidéo sur pause et essayez de répondre à la question que je vous ai posée. C'est le moment. Essayez de trouver comment générer un nombre aléatoire en C#. Alors, c'est pas bien compliqué, hein. Vous allez voir, il suffit de poser la question sur votre dans votre moteur de recherche préféré. Donc, je vais utiliser Bing et je vais taper directement la question en langage naturel. Alors d'habitude, moi personnellement, je ne fais pas ça. J'essaie de rentrer les mots-clés qui me semblent les plus pertinents. Mais si on ne sait pas quels sont les mots-clés les plus pertinents, eh bien, on va carrément poser la question. On va voir ce que ça donne. Alors, générer un nombre aléatoire en C#. Enter. Voyons sur quoi on va tomber. Alors, on va tomber sur à peu près tout et n'importe quoi, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est de tomber sur la documentation en ligne du MSDN, qui est la documentation officielle pour les langages de développement de la plateforme Microsoft et pour le C# notamment. Alors, quand je regarde un petit peu l'ensemble des liens qui apparaissent, un des premiers que je trouve, c'est justement une des pages du MSDN. Random Class System. Ça sent bon déjà, c'est un nom de classe. Donc on n'a même pas besoin d'ouvrir la documentation MSDN pour trouver que le nom de la classe qui m'intéresse, c'est Random. Je vais quand même cliquer dessus, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ressemble une page du MSDN. Voilà. Il me dit classe random, il m'indique à quelle version du framework .NET ça s'applique. Ça, on rentre déjà dans les termes techniques, on n'est pas obligé de retenir. Et je vais avoir ensuite l'ensemble des méthodes qui sont disponibles pour cette classe. Les méthodes, je vous expliquais ce que c'était, c'était les fonctionnalités qui se rapportent à cet objet-là. Là, c'est un objet random, donc un objet qui permet de réaliser des choses de manière aléatoire. Donc la réponse à la question, c'était random. Je vais retourner sur mes slides. La question bonus, c'est quelle est la méthode qui permet de générer un nombre aléatoire? Je vois ici l'ensemble des méthodes de la classe random. Et parmi ces méthodes, je trouve plusieurs méthodes next qui prennent des paramètres différents, mais qui toutes me retournent un nombre aléatoire. Ce qui m'intéresse, moi, j'en trouve une qui est vraiment intéressante, c'est ici next qui prend en paramètre deux entiers. Int32, c'est comme int et int. Donc deux entiers, retourne un entier aléatoire qui se trouve dans une classe spécifiée. Int32, c'est pour dire un entier sur 32 bits. Alors, je vais me remettre dans mon code. Voilà, et je vais taper la ligne qui me permet de récupérer un nombre aléatoire entre 1 et 20. Alors, j'ai écrit quoi? J'ai écrit int random, donc j'ai déclaré une nouvelle variable de type entier qui s'appelle randomed, qui va me permettre de stocker la valeur envoyée par random.next. Remarquez que ici, j'ai un new random avec des parenthèses après le random. Donc c'est différent de ce qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le module 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces différences-là parce que pour cela, il faudrait que j'explique plein d'autres notions. Et je fais abstraction de tout ça pour l'instant, vu que c'est vraiment, on reste vraiment sur des notions de base. Donc, on va lisser un petit peu ces spécificités. Donc, on fait int random d'égal random new random.next. Et là, on va préciser les paramètres. Les paramètres, c'est-à-dire la plage dans laquelle on souhaite récupérer la valeur. Remarquez que quand on tape la première parenthèse, Visual Studio va nous aider. Il va nous dire... Il va nous mettre en gras le premier paramètre hein, dans la documentation, int min value, et il nous dit retourne un nombre aléatoire figurant dans la plage spécifiée. Et min value, c'est la limite inférieure, entre parenthèses, incluse, du nombre aléatoire retourné. Il est sympa de nous le dire parce que du coup, si on hésitait entre 0 et 1, on sait qu'il faut mettre 1. Donc il peut nous renvoyer à partir de la valeur 1 au minimum. Et si je tape donc, virgule, ensuite il va me mettre en gras le deuxième paramètre qui est max value. Et cette fois-ci, il me dit limite supérieure exclusive du nombre aléatoire retourné. Donc, ça veut dire que si je souhaite avoir un nombre entre 1 et 20, il faut que je précise 20 plus 1 dans ce deuxième paramètre pour être sûr de récupérer un 20 au maximum pour mon nombre aléatoire, puisque c'est exclusif. Voilà, donc dans ma variable random, je devrais avoir un nombre aléatoire. On va voir si ça fonctionne. Comment on voit ça? Eh bien, il suffit d'être en mode pas à pas, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je fais F11. Je me retrouve ici, vous voyez la petite flèche jaune, sur la première ligne de code. F11, je me positionne maintenant sur mon code random. F11 encore une fois, maintenant il l'a exécuté. Et si je place mon curseur sur random, je vois qu'il a choisi aléatoirement le nombre 16. Je peux tricher du coup. Hein. Si c'est moi qui joue l'utilisateur, je saurai tout de suite quel nombre la machine a choisi. Alors, pour arrêter le programme, je clique sur le bouton stop. Et on va passer à la suite dans les slides. Alors, on voit ici dans les slides, en fait, une autre manière d'avoir un nombre aléatoire. C'est une autre signature de la méthode next. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, ce que je veux faire dans mon jeu, c'est demander à l'utilisateur de saisir un premier essai de nombre qui devrait correspondre à celui choisi par l'ordinateur. Donc, c'est le premier essai. Il faut lui demander de saisir un nombre et ensuite, il faut que vous le stockiez dans une variable. On a vu tout ça dans le module 1, vous savez tout faire. Si, si, vraiment. Comment on fait ça? Alors, la première chose à faire, c'est de dire à l'utilisateur qu'il doit taper un nombre. Donc, c'est un console.writeLine. C'est un nombre entre 1 et 20. Le point virgule toujours à la fin de la ligne. Et ensuite, il faut que l'utilisateur puisse saisir ce nombre. Donc, il va falloir faire un console.readline, mais il va falloir le stocker. Ça veut dire qu'on va déclarer une nouvelle variable, string num, égale console.readline. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Je vais en profiter pour vous montrer une autre manière de surveiller ce qui se passe dans votre code pendant l'exécution de l'application. On a vu tout à l'heure ce qu'était le mode pas à pas avec F11 pour passer d'une ligne de code à l'autre, hein, pas à pas. Et là, je vais vous montrer ce qu'est un point d'arrêt ou un breakpoint en anglais. En fait, ça va permettre de définir une ligne de code sur laquelle on souhaite s'arrêter pour faire du mode pas à pas, pour commencer le mode pas à pas. Donc à partir de cette ligne-là, on est en mode pas à pas. Ça permet de bypasser en fait toutes les lignes qui ne nous intéressent pas. On sait qu'elles fonctionnent et on ne souhaite pas forcément s'attarder dessus. Donc dans mon cas ici, je vais mettre le breakpoint sur le console.readline. Ça c'est très simplement, il suffit de cliquer dans la marge sur la ligne qui nous intéresse. Donc le code sur lequel il va s'arrêter est surligné en rouge. Et on va pouvoir démarrer l'application normalement. Voilà, donc ici je suis sur le console.readline. C'est en jaune, hein, donc c'est la ligne active, il ne l'a pas encore exécutée. Je vais faire F11. Voilà, et là il me propose donc de saisir le nombre entre 1 et 20. Je vais saisir 6. Je vais taper Enter. Et je me retrouve à nouveau dans Visual Studio. Il a fini d'exécuter cette ligne de code. Et je peux vérifier le contenu de ma variable num, qui est un 6 avec des guillemets, puisque c'est une variable de type string. Donc, ça fonctionne bien. Alors, pour avancer dans notre application, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est comparer le nombre random qui a été choisi par l'ordinateur avec le nombre picked que l'utilisateur vient de saisir. On a vu dans le module 1 que tout ce qui était calcul mathématique ou comparaison, etc., ça pouvait se faire que sur des valeurs numériques. Or ici, j'ai bien mon premier nombre random qui est de type int entier, mais le nombre pict que l'utilisateur a saisi et auquel je dois le comparer. Il est de type string, c'est une chaîne de caractères. Donc de la même manière que dans des cellules Excel, on ne peut pas mixer, faire des calculs sur des valeurs de texte, il va d'abord falloir convertir cette variable pict dans une valeur numérique. Pour faire ça, on a vu dans le module précédent qu'on pouvait utiliser int.parse et on a vu aussi que si on tapait du coup une valeur de texte comme Toto par exemple et qu'on appelait int.parse sur cette valeur-là, on avait une erreur d'exécution parce qu'on ne sait pas transformer Toto dans un entier. Voilà. Il faut forcément taper une valeur numérique pour que le int.parse fonctionne. Et donc, il y a une autre méthode un petit peu plus évoluée qui nous permet de tester en même temps qu'on fait la conversion. Juste avant, la méthode teste si effectivement le texte qu'on a rentré peut être convertible sans erreur d'exécution. Ça s'appelle tryParse. Et voilà comment ça s'utilise. Donc int.tryParse, on passe en paramètre d'abord la variable pict que l'on souhaite convertir et on la récupère dans la variable pictNum qui est de type entier, int, elle, et qu'on a déclarée juste au-dessus. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on a déclaré une variable, on faisait une affectation juste derrière, on faisait un égal, mais on n'est pas obligé, on peut très bien déclarer une variable sans rien lui affecter, comme ce que je viens de faire ici. Tout simplement, ça nous permet d'utiliser cette variable dans le reste de notre application. Alors, je ne vais pas vous demander de comprendre vraiment la syntaxe du tryParse. Juste ce que je voudrais vous faire deviner, c'est quelle est la signature de tryParse. Souvenez-vous, la signature, c'est quel est le nom de la méthode, quel est son type de retour, quels sont les paramètres qu'elle peut prendre. Tout ça, c'est la signature de la méthode. Quelle est-elle pour le tryParse? Et mettez la vidéo sur pause pendant ce temps. Pour trouver la signature de la méthode tryParse, je vais aller me replacer dans Visual Studio et je vais coller le petit bout de code qui était dans les slides. Je vais juste changer le nom de la variable qui me permet de récupérer le résultat du readline. Je l'avais appelé pict, alors je vais garder le même nom. D'ailleurs, vous remarquez que quand j'utilisais la variable le pict dans mon tryParse, comme elle n'avait pas été déclarée, eh ben, il me l'a souligné en rouge. Ça me permet de voir que justement, il faut que je corrige le petit bug. Alors, comment on fait pour voir la signature? Il suffit tout simplement dans Visual Studio que que je place le curseur sur la méthode tryParse. Et là, je vois la documentation de la méthode tryParse, à savoir son code retour, le type de son code retour. Ici, c'est booléen. C'est une valeur vraie ou faux. Ça peut prendre que deux valeurs, le type booléen. Et puis, je vois les types de chacun de ces deux paramètres, string et int. Donc string parce que c'est la chaîne de caractères qu'on passe en entrée et int parce qu'il en ressort un entier. Ce qui nous intéresse dans notre application, c'est justement de savoir si la conversion a fonctionné ou non. Et le code retour de type booléen, justement, il nous dit oui, si il a réussi, oui, c'est-à-dire vrai, s'il a réussi à convertir la chaîne de caractères en entier, et faux, si il n'a pas réussi. Alors moi, ça m'intéresse de récupérer le résultat de est-ce que cette conversion a réussi ou non. Donc je vais déclarer une variable booléenne. Bool, c'est ça le type booléen is numérique par exemple, égale int.tryParse. Donc là, je vais récupérer dans is numérique vrai ou faux en fonction que la conversion est réussie ou non. Et du coup, ce qui m'intéresse, moi, développeur, c'est de m'assurer que l'utilisateur saisisse forcément un nombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que tant qu'il ne saisit pas un nombre, je vais lui redemander de saisir. Je vais lui dire, tu as fait une erreur, ce n'est pas une valeur numérique, ressaisis un nombre. C'est là qu'on va introduire le concept de boucle. Alors, une boucle, c'est quoi? C'est un bloc de lignes de code qui se répète. Donc, s'il y a trois lignes de code dans le bloc, il va faire la première, la deuxième, la troisième, et il va remonter à la première. Donc ça fait une boucle. Hein. On répète les mêmes lignes de code à chaque fois. À chaque fois, mais jusqu'à quand? Justement, jusqu'à une certaine condition. En C Sharp, une boucle, ça se traduit par l'instruction while, tant que. Donc tant que une condition donnée, on va répéter ce qui se trouve dans le bloc entre accolades sous le while. Notre condition à nous, c'est quoi? C'est justement que isNumérique, tant que isNumérique n'est pas vrai, on souhaite réitérer la demande de saisie du nombre. Donc, tant que le try parse ne réussit pas, il va falloir répéter un certain nombre de lignes de code. Ce que je vous demande, c'est quelle ligne de code je vais devoir placer ici pour avancer dans mon application. À vous. Alors, ça devient quand même un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs lignes de code à trouver maintenant. Ça commence par un console.writeline. Il faut bien prévenir l'utilisateur que sa saisie est erronée. Voilà, en console.writeline, attention, ce n'était pas un nombre, essaye encore. On va refaire un readline, puisqu'on va lui demander de ressaisir du coup son nombre. Et on va le stocker de la même manière que tout à l'heure, dans la variable pict. Et on refait un tryParse pour vérifier à nouveau si ce nombre, cette conversion est possible ou non. On restocke également le résultat du tryParse dans isNumérique. Du coup, quand on arrive à la fin de cette ligne, on va remonter, évaluer la condition du while. Alors, isNumérique, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? S'il est faux, c'est-à-dire si c'est à nouveau pas un nombre, eh ben on va recommencer ce bloc de code et on va remonter encore une fois qu'il sera terminé, évaluer la condition qui se trouve dans le while. Et s'il est vrai, tout simplement, on sort du while, c'est-à-dire qu'on va exécuter les instructions qui se suivent en dessous de l'accolade fermante. Donc, pour l'instant, on n'en a pas mis. Voilà comment ça se passe pour le while. On va essayer tout de suite. Je vais prendre mon petit bloc de code, je vais le copier et le coller dans mon programme.cs, dans mon fichier programme.cs. Je vais exécuter mon code. Alors, je vais placer un breakpoint. On va le placer juste après le tryParse. Je vais démarrer mon application. Alors, saisissez un nombre. Je vais saisir 5. On arrive ici sur l'évaluation de la condition. Donc, est-ce que numérique est true ou false? Il est true, puisque j'ai effectivement saisi un nombre. Et alors, regardez bien là ce qu'il va faire. J'appuie sur la touche F11. Et vous voyez, il n'a exécuté aucune instruction du bloc while. C'est normal, puisque la condition est fausse. Elle est vraie. Puisque la condition est vraie. Alors, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va saisir Toto. Hop. J'évalue isNumérique. On voit que c'est false. False est bien égal à false. Alors, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y a une différence entre le égal d'affectation et le égal de test d'égalité. Quand on veut faire un test d'égalité, on met un double égal. Et l'affectation, c'est un seul égal. C'est comme ça, c'est le C-sharp. Donc cette fois-ci, si false égal false, c'est vrai. Du coup, comme c'est vrai, on rentre dans le while. Je fais F11. Et vous voyez, il va exécuter le console.writeline. That's not a number. On refait un readline. Voici la fenêtre console qui apparaît. Cette fois-ci, on va rentrer un nombre. On va repasser sur un tryParse et du coup réévaluer la valeur, réaffecter isNumérique avec le résultat du tryParse. Cette fois-ci, isNumérique est true. On va remonter à l'évaluation de la condition du while. isNumérique, est-ce qu'il est égal à false ou pas? True, est-ce que c'est égal à false? Non. Du coup, on ressort et on a terminé le while. Vous avez écrit votre première boucle. Voici une petite variante du code. Pour les plus malins, c'est une version qui est optimisée. Remarquez qu'ici, on n'utilise pas de variable isNumérique. Pourquoi? Ben, je laisse les plus malins essayer de trouver la solution. On ne déclare une variable que si on la réutilise à plusieurs endroits dans le code, parce que ça permet d'y faire référence, de donner un nom et de réutiliser la même information plusieurs fois. Ici, on n'en a pas besoin parce qu'on va directement remplacer notre variable isNumérique par le code du tryPass. Du coup, quand on va tomber dans l'évaluation de la condition du while, la première chose qui sera faite, c'est exécuter le tryPass qui nous renvoie vrai ou faux. Donc, on se retrouve avec une valeur vrai ou faux qui remplace tout le in.tryPass ici, vrai ou faux égale égale false. On se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure avec le test sur la variable isNumérique. Et on n'a plus besoin de préciser, enfin de réexécuter le tryPass comme dans la première portion de code ici à la fin du bloc du while, puisque de toute façon, cette instruction-là, cette ligne de code sera réexécutée justement quand on réévalue la condition du while. Du coup, ça nous permet d'optimiser ce bloc de code. Maintenant que l'on a notre entier randomed choisi par l'ordinateur et notre entier pictNum qui est le nombre tapé par l'utilisateur, eh bien, il va falloir avancer dans le jeu et il va falloir vérifier si le nombre tapé par l'utilisateur est le bon ou non. Et ceci, il va falloir le répéter jusqu'à ce que l'utilisateur ait trouvé le nombre randomed. Alors, à vous. Tant qu'on n'a pas trouvé le bon nombre, il faut recommencer. Donc, le but là, c'est de trouver la condition qui permet de refaire un essai de devinette. Il va falloir comparer deux variables, essayer de trouver le code qu'il faut écrire. Ce qu'il faut comparer, c'est nos deux variables picNum et random. Et donc, on pourrait faire un if. Hein. If picNum différent de random, on repose la question. Sauf qu'il faut faire ça autant de fois que le nombre n'est pas le bon. Du coup, au lieu de faire un if qui permettrait de tester une seule fois et de dire oui, vous avez gagné ou non, vous n'avez pas gagné, réessayez, eh ben, nous, on veut continuer à le faire tant que le nombre n'est pas trouvé. Donc, on met un while et non pas un if. Donc, while, picNum différent de random. Donc, différent, ça s'écrit en C# avec un point d'exclamation égal. Quel code est-ce qu'on va mettre entre les accolades du while? Tant qu'on ne trouve pas le nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir demander à l'utilisateur de saisir un nouveau nombre. Donc finalement, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà fait. On va faire un readline pour récupérer le nombre qu'il va taper et on va le transformer en valeur numérique comme tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer si la condition du while est vérifiée? Si l'utilisateur saisit le nombre choisi par l'ordinateur, du coup, on va faire quoi? On va sortir du while. Du coup, on ne va plus exécuter ce qu'il trouve entre ces accolades, mais on va exécuter ligne suivante. Donc finalement, quand on sort du while, c'est qu'on a gagné. Sinon, on continue d'essayer à l'infini dans notre application. C'est comme ça que c'est conçu en tout cas. Du coup, on est sûr que quand on sort de la boucle, picNum est égal à random. Et on peut informer l'utilisateur qu'il a gagné. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la démo, on aidait l'utilisateur quand même, on lui disait à chaque essai si le nombre mystère était supérieur ou inférieur à la valeur qu'il avait saisie. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est que vous écriviez le code qui permet justement de faire cette fonctionnalité. Aidez l'utilisateur, dites-lui si c'est plus ou moins. Alors cette fois-ci, le if va suffire. Il suffit de tester si picNum est supérieur à randomed ou non, et de lui dire, dans un cas ou dans l'autre, si c'est plus ou moins. On va reprendre ce code et on va le placer dans Visual Studio. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement collé à la suite du code qu'on avait déjà écrit. Ce qu'on avait écrit avant, c'était demander à l'utilisateur de saisir un nombre et le transformer en valeur numérique. Là, je rajoute le while. Cette valeur numérique, on la compare à random. Et puis, ça, c'est le code qu'on vient de voir. Alors, normalement, vous devez constater qu'il y a quelque chose de remarquable, en fait, dans tout ce bloc de code. Et je vous aide un petit peu. Ça se rapporte à cette partie-là. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce bloc de code est le même que celui qui est juste au-dessus, ici. Il réalise la même fonctionnalité. Ce qu'on a ici et ce qu'on a en dessous, bah, ça réalise la même chose. Ça demande à l'utilisateur de saisir un nombre et ça le transforme en valeur numérique. Un des principes de base du développement, c'est de ne jamais écrire deux fois les mêmes lignes de code. Donc on a la même chose, la même fonctionnalité à réaliser, que ce soit ici ou là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais associer un nom à ce groupe de lignes de code. Ça va me permettre de rappeler ces lignes de code juste en rappelant la méthode. Donc je peux la réutiliser plusieurs fois cette méthode et j'aurai écrit ces lignes de code une seule fois. Donc je vais couper les lignes de code dont je vous ai parlé et je vais créer la méthode. Je vais l'appeler pick a number puisqu'il faut que le nom de cette méthode ait un rapport avec ce qu'elle réalise. Ça se fait de la manière suivante. Donc, tout comme pour les méthodes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, par exemple le write line, le try parse, etc., je vais avoir une signature, donc un code retour à préciser pour le nom de la méthode. Ce code retour chez nous, il est de type entier puisqu'on veut renvoyer, récupérer en fait l'entier qui a été saisi par l'utilisateur. Donc, j'avais dit, je l'appelle pick a number. Donc, ça, c'est le nom de la méthode. Et elle n'a pas de paramètres. Je mets des accolades et je précise, je vais aller coller les lignes de code à l'intérieur de ces accolades-là. Voilà. Alors, ce qui manque encore ici, c'est de préciser à la fin de la méthode quelle information je veux renvoyer, quelle information je veux récupérer chaque fois qu'on utilisera pick a number. Ça se fait par l'instruction return, je renvoie. Donc, qu'est-ce qu'on veut renvoyer dans notre cas? Eh bien, on veut renvoyer pick num, la valeur saisie par l'utilisateur convertie en entier. Donc, pick num, point virgule. Remarquez que la méthode, je l'ai créée au même niveau que mon main. Le main, c'est une méthode aussi. On peut, dans une classe, avoir. On est ici en fait dans la classe programme, même si je ne l'ai pas développé ça davantage pour l'instant dans ce cours. On peut avoir dans une classe plein de méthodes et elles se déclarent, elles s'écrivent les unes en dessous des autres. Donc le nom de la méthode, la signature de la méthode, accolade ouvrante, accolade fermante, et puis la méthode suivante, pareil, le nom de la méthode, la signature, accolade ouvrante, accolade fermante, etc. D'ailleurs, dans Visual Studio, j'ai des petits moins et des petits plus là qui me permettent de bien voir quelles sont les méthodes qui existent dans la classe. Ça me permet de réduire un petit peu la place qu'elles prennent sur l'écran et de m'attacher uniquement à celles qui m'intéressent. On a donc écrit notre méthode pick a number et on va vouloir l'utiliser dans notre main ici. Donc, je vais avoir un pictNum. Égal, donc je vais utiliser ma méthode pick a number et là je suis sûre que je récupère un entier sous forme oui, enfin un entier. Voilà, et ici de la même manière je vais pouvoir refaire pareil. Donc pictNum égale pick a number. Voilà, ça fait du coup un code beaucoup plus court. Et si c'est plus court, c'est plus compréhensible. On a oublié quelque chose. On a oublié de dire, une fois qu'on sortait du while, qu'on avait gagné. On va refaire le console.writeline. On l'avait dans les slides, mais je ne l'avais pas collé dans les sources. Bravo. Tu as gagné. Allez, on démarre l'application. Saisissez un nombre. 10. C'est plus, bon, on a mélangé anglais et français, donc ce n'est pas très grave. 15, 18, bravo, j'ai trouvé. Ah, et vous avez remarqué, il manque aussi le console.readKey qui me permet d'avoir le temps de lire qu'on a gagné. Donc je le rajoute. On va relancer l'application et cette fois-ci, on va voir comment ça se comporte pour la partie méthode. Je vais mettre un breakpoint sur pick a number F5 pour démarrer mon application. Donc quand je suis sur Pick and Amber, si je fais F11, vous allez voir que je tombe sur ma méthode Pick and Amber. Et puis on va pouvoir la suivre pas à pas. Un readline, du coup je saisis un nombre. Et le tryParse, est-ce que la valeur est numérique ou non? Oui, du coup je renvoie le nombre que j'ai saisi qui est bien 8. Quand je fais F11 sur le return, je vais revenir à l'endroit après l'appel de ma méthode. Voilà. Et je continue mon code. Normalement, ma méthode main, elle continue. Donc, en fait, quand on fait un appel de fonction, le code de la fonction va s'exécuter. Et à la fin de la fonction ou de la méthode, je fais un return ou non. On n'est pas obligé de renvoyer un code retour dans une méthode. Mais dans tous les cas, je reviens à la ligne de code à plante de cette méthode-là et je continue d'exécuter mes lignes de code qui se trouvent en dessous. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on crée des méthodes dans le code. La première raison, c'est celle que l'on a vue, à savoir quand on a des lignes de code qui se répètent à plusieurs endroits, on les regroupe dans une méthode et du coup, c'est cette méthode qu'on appelle plusieurs fois. Un autre cas pour lequel on va créer des méthodes, c'est clarifier le code source et regrouper une fonctionnalité donnée réalisée par plusieurs lignes de code dans une méthode qui portera le nom justement de cette fonctionnalité-là. Il faut bien penser aux personnes qui vont relire le code derrière vous. Quand vous travaillez sur un projet, vous êtes rarement seul. Et même si vous êtes seul d'ailleurs, c'est bien pour vous aussi. Quand vous allez vous relire, du coup, vous allez comprendre de quoi vous parlez plutôt que d'avoir une énorme méthode avec je ne sais combien de centaines de lignes de code. Bon, déjà plusieurs centaines, ça fait beaucoup quand même. Mais dans l'idée, il faudrait qu'une méthode ne dépasse pas une page. Donc, l'idée, c'est d'essayer de découper correctement son code en donnant des noms de méthodes assez explicites pour que quand on relit, on sait de quoi on parle. Si on réfléchit au cas de notre application, on pourrait créer plusieurs méthodes pour chacune des fonctionnalités, à savoir démarrer une nouvelle partie, dire « tu as gagné », et puis « essaye encore ». Donc, on va voir ce que ça donne si on essaie de créer des méthodes qui correspondent à ça dans notre code. Je vais commencer par « j'ai gagné », c'est la plus simple. Il y a une seule ligne de code qui correspond à j'ai gagné. Static void. Alors, c'est une méthode qui ne renvoie rien. Donc, quand on ne renvoie rien, on met void en code retour. You win. Il n'y a pas de paramètre. Donc, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Quand on appelle cette méthode-là, on n'a pas besoin de rajouter des paramètres. Alors là, vous allez me dire, mais c'est bizarre. Quel est l'intérêt de créer une méthode pour y mettre une seule ligne de code? Parce qu'on appelle youwin, qu'on appelle youwin ou qu'on fasse console.writeline, finalement ça prend autant de lignes de code. Oui, mais non. Enfin, oui, mais oui. Mais l'idée là, c'est que quand on lit le code, on sait de quoi on parle. Quand le développeur va lire ici Ubin, il sait que cette méthode correspond au fait qu'on a gagné. Il n'a pas besoin d'essayer de comprendre à quoi correspond le console.writeline. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que si un jour vous avez envie de rajouter d'autres choses, d'autres fonctionnalités après qu'on ait gagné que juste écrire tu as gagné, eh bien vous saurez automatiquement où mettre ce code puisque vous avez une méthode qui est réservée à ça. Alors les méthodes, on peut les commenter aussi, hein. Dans Visual Studio, pour simplifier les choses, il vous suffit de vous placer au-dessus de la méthode, au-dessus de la signature, et de faire trois slash, 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 bam, et il met un petit commentaire tout près. Correspond au fait que l'on a gagné. Voilà. Donc, du coup, si on veut, je sais pas, faire un petit bruit, un petit bip ou que sais-je, il suffit de placer ce code-là à la suite dans la méthode youwin. On avait également une méthode pour newGame. Mais finalement, newGame, c'est quoi? C'est tout le code de notre jeu. Alors, on va l'appeler tout de suite newGame. Et le code, c'est quoi? C'est static void New game, il n'y a pas de paramètres non plus. Voilà. Là, pareil, vous allez me dire, mais quel intérêt de faire une méthode new game? Mais encore une fois, quand vous allez lire votre main, vous allez comprendre que, tiens, il y a un jeu qui intervient dans ce code. Et tiens, à la fin, on fait un read key pour ne pas sortir de la fenêtre console. On ne place pas le read key dans le new game parce que ce n'est pas une fonctionnalité du jeu. C'est lié au fait qu'on a une application console et qu'on ne veut pas sortir avant la fin. Donc, c'est juste... c'est pas lié au jeu lui-même. Non, on aurait pu le mettre, hein, mais bon, voilà. Moi, je préfère ne pas le mettre. Dans New Game, alors qu'est-ce qu'on peut simplifier encore? On a le You Win et on avait le Pick a Number et on a aussi le Try Again qu'il faut mettre en place. Try Again, c'est tant qu'on n'a pas trouvé, il faut réessayer. Du coup, c'est toute cette partie-là qu'on va couper. Static. Alors dans le try again, on va récupérer le pick num, donc int try again. On va passer int. Donc là, je type mon paramètre num. On peut mettre pick num aussi. Et int random. Voilà. Et ici, je vais renvoyer le picknum. Return picknum. Puisque ce qu'on souhaite ici, c'est informer l'utilisateur si c'est plus ou moins et lui faire retaper un nombre qu'on récupère du coup dans le code retour de la méthode tryAgain. Donc ici, faire picknum égale tryAgain. En lui passant random. Pourquoi est-ce qu'on lui passe random en fait? On lui passe picknum et random, pardon. On lui passe picknum et random en paramètre parce que la méthode qui est ici, tryAgain, elle est capable de traiter que les variables, soit qui sont dans les paramètres, soit qui sont déclarées ici dans le on appelle ça le scope, dans la portée de la méthode elle-même, c'est-à-dire entre les deux accolades. Or, picknum et random, on les a déclarés dans le new game. Et du coup, on n'y a pas accès dans cette méthode-là, tryAgain. Du coup, pour y avoir accès, il faut les passer en paramètres, donc entre les accolades, quand j'appelle ma méthode tryAgain. Alors là, je leur ai donné le même nom, mais on n'est pas obligé. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il manque? Je crois bien que c'est tout. Alors, pour voir si c'est tout, on va essayer. Je démarre. 10, 16, 18, 19, et j'ai gagné. C'était 19. Ça a l'air de fonctionner. Alors, on va vérifier encore une chose. C'est si effectivement, si je saisis autre chose qu'un nombre, il me dit, c'est pas un nombre, réessaye. C'est pas un nombre, réessaye, ça marche. Super. Voilà. Alors, ce que je voudrais que vous voyez, c'est que finalement, ce code... il est beaucoup plus lisible qu'avant. Pourquoi? Parce que regardez, on va rentrer dans la méthode main, c'est là le point d'entrée de mon application, c'est ce qui va être exécuté, ce qui se trouve dans le main. Je vois qu'on appelle new game. Ok, donc on parle d'un jeu et on démarre une nouvelle partie. Dans le new game, qu'est-ce qui se passe? Alors quand on se positionne avec le curseur sur une méthode et qu'on fait F12, Visual Studio vous emmène sur cette méthode-là. Voilà. Je suis dans new game. Dans new game, qu'est-ce qui se passe? On récupère un nombre aléatoire, ça aussi j'aurais pu le mettre dans une méthode, générer nombre aléatoire par exemple, ça aurait été plus clair que d'avoir un int random égale new random.next, blablabla. Ben, je vais le faire du coup. Génère nombre aléatoire, voilà, c'est vachement plus clair comme ça. Static int génère nombre aléatoire. Je colle ça. Alors, je peux carrément faire directement return new random.next. Ça marche aussi. Je suis pas obligée de créer une variable parce que finalement j'en ai juste besoin pour le return. Donc je peux mettre le code correspondant directement. Alors, je regarde ma méthode new game. J'ai quoi dans cette méthode new game? J'ai Génère un nombre aléatoire, ok, donc on comprend bien ce qui se passe. Ensuite, on demande saisissez un nombre entre 1 et 20 et on dit pick a number, donc on comprend bien que c'est le code qui va nous permettre de saisir le nombre entre 1 et 20 qui a été demandé juste avant. Et ensuite, on voit qu'on boucle tant que pictNum est différent de randomed, qui est notre nombre aléatoire, et bien on dit try again, donc on comprend bien ce que ça veut dire aussi, et à la fin, you win. Alors en gros, le code de notre jeu, il est là. Celui qui doit être compréhensible, il est là. Si ensuite on veut rentrer dans le détail, il suffit de se positionner sur une des méthodes de faire F12 et de regarder ce qui se passe. Je peux aller voir dans try again vraiment le détail de la méthode et du fonctionnement. Mais quand même, globalement, c'est beaucoup plus clair que ce qu'on avait tout à l'heure avec un gros main et tout dedans. Voilà comment on clarifie le code source d'une application. On arrive à la fin de ce module 2. Vous avez codé votre première application. Je vous félicite. On se donne rendez-vous au module suivant, dans lequel on créera une nouvelle application, cette fois-ci avec la technologie WPF, qui va nous permettre d'avoir une interface graphique pour notre jeu, avec des boutons, des zones de saisie, tout ça, tout ça. Donc on va apprendre encore plein de choses nouvelles. À tout de suite.